Radio Okapi. Okapi.
Okapi service avec jeudi Daniel Kachama. Okapi.
Fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore ce matin pour vous servir. Eh bien, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, nous allons parler de l'entrepreneuriat agricole. Comment promouvoir l'entrepreneuriat agricole en République démocratique du Congo? On en parle avec le professeur Jean-Claude Bouanganga, expert en technologie des transformations des aliments, depuis la ville de Bandundu. Professeur Bouanganga, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capus.
Bienvenue dans cette émission qui recevra également Yves-Daniel Gavan, coach en entrepreneuriat. Yves-Daniel, bonjour. Voilà, il sera tout à l'heure en ligne. Nous allons parler de l'entrepreneuriat dans le secteur agricole. Le sujet vous intéresse, n'hésitez pas de nous appeler déjà au 081 890 63 94 pour participer à cette émission de la vie au quotidien. Comment lutter efficacement contre les érosions? Nous allons en parler dans la deuxième partie de cette émission à partir des 11h05 heure de Kinshasa. Jean-Claude Ciel a été à la mise en onde, Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission qui présente jeudi Daniel Kachama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Bienvenue à tous et excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers, un espace vous est réservé. Samedi dimanche, de 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Capi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiocapi.net. Et demandez une chanson et nous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Encore une fois, bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons parler dans cette première partie de l'émission de l'entrepreneuriat agricole. Vous savez, la RDC possède un potentiel de 80 millions d'hectares de terres arables. Cependant, 8 millions seulement sont exploités, soit 10%. Selon l'Institut National des Statistiques. Avec cette potentialité, le pays peut nourrir environ 2 milliards de personnes à travers le monde, selon la FAO. Cependant, le secteur agricole n'est pas encore pleinement exploité, malgré son rôle important dans le développement économique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour encourager davantage les citoyens congolais, particulièrement les jeunes, les femmes, à se lancer dans l'agro-business, à se lancer dans la chaîne des valeurs agricoles? Eh bien, nous allons parler de cela avec notre invité, professeur Jean-Claude Bouanganga, expert en technologie des transformations des aliments. Il intervient depuis la ville de Bandundu. Professeur Bouanganga, encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et encore une fois, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Alors, quel état des lieux, commençons par faire un état des lieux de l'entrepreneuriat agricole en République démocratique du Congo.
Entrepreneuriat agricole en République démocratique du Congo, c'est vraiment un tableau qui est difficile à décrire. D'abord, en parlant de l'agriculture, je préfère, comme c'est le mois de la femme, de saluer toutes les femmes qui sont engagées dans le secteur agricole, parce que sans elles, ce pays ne ressemblerait à rien. En fait, lorsque vous parlez de l'entrepreneuriat agricole en général, on voit l'activité de la femme et pas n'importe quelle femme, de la femme rurale. Cette femme, monsieur le journaliste, je la connais un tout petit peu parce que je suis dans le monde rural et je vais vous décrire son activité. Si je prends la province de Kwilu, là où je suis, cette femme vit de l'agriculture, donc du manioc. Et elles sont capables, ces femmes, de faire autour de 400 000 hectares de manioc par an. Mais une agriculture qui ne leur donne que 7 tonnes de manioc par hectare. Vous voyez la difficulté. Quand elles font le maïs, elles sont fortes. Elles peuvent faire jusqu'à 98 000 hectares. Pour un rendement, tenez-vous bien, de 0,7 tonnes à l'hectare. Cette femme, elle fait de l'arachide. Elle travaille beaucoup. 80 000 hectares d'arachide. Et 80 000 hectares d'arachide pour un rendement de 0,8 tonnes à l'hectare. Vous imaginez une telle activité pour laquelle elle doit vivre. Elle ne vit que de ça. Je ne parle pas des femmes qui sont en pagne et qui vont participer à la journée, à la clôture de la journée, plutôt à la clôture du mois de la femme. Je ne parle pas de ces femmes-là. Je parle de ces femmes qui sont au plus profond de la RDC, qui n'ont pas de pagne, justement. Quand elles ont de pagne, c'est des pagnes qu'elles ne peuvent pas porter pour participer à une conférence. Voilà la femme qui s'occupe de l'agriculture en République démocratique du Congo. Voilà l'entrepreneuriat pour lequel on devrait discuter, monsieur le journaliste.
Bien, alors vous avez dressé un tableau de l'entrepreneuriat agricole. Vous voulez dire qu'il y a beaucoup plus de femmes qui entreprennent dans ces secteurs plutôt que les hommes?
Beaucoup plus de femmes. Et ce qui est dangereux, j'en ai l'expérience. Les femmes travaillent dans l'agriculture, mais lorsque vous allez vers une agriculture contractuelle, c'est à ce moment-là que vous voyez les hommes apparaître. Parce que les hommes détiennent des terres, les hommes sont puissants, etc. Voilà. C'est une situation qu'il faut qu'on change si l'on veut changer la situation de la femme en République démocratique du Congo, qu'on repense à son activité quotidienne, une activité pénible.
Alors, ça, par rapport à ce que la femme est en train de faire aujourd'hui dans les secteurs agricoles, est-ce qu'il faut parler déjà de l'entrepreneuriat à ces niveaux ou bien c'est tout simplement une agriculture de subsistance?
Vous savez, monsieur le journaliste, nous avons la facilité de décrire des situations. Je me rappelle d'un savant qui passait dans un train et avec son ami, ils ont vu des moutons. Et il y en a un qui a dit « Ah, ce mouton a été fraîchement tondu ». Et son ami lui dit « Non, de ce côté-ci, du côté que nous voyons, de ce côté, vous ne pouvez pas dire que le mouton est totalement tondu si vous n'avez vu qu'une partie du mouton ». Le problème, c'est que nous décrivons toujours dans nos bureaux climatisés la situation de l'agriculture en République démocratique du Congo sans palper cette agriculture du doigt. Aujourd'hui, et encore peut-être demain, après-demain, les lions vont se multiplier autour de cette agriculture parce que tout le monde sait que c'est la femme qui fait. Mais je vous jure, cette femme qui est au centre de cette agriculture, cette femme, on la connaît pas. On connaît pas ses blessures, on connaît pas. Et c'est ça que je trouve malhonnête, que vous soyez là à parler dans des grands salons des gens dont la situation n'est même pas connue.
Voilà. Alors, dites-nous, professeur. Alors, justement.
J'ai vraiment mal au cœur. J'ai vraiment mal au cœur parce que récemment, nous avons mené une étude. Tenez-vous bien. Hein, la femme, dans un seul territoire, ici, dans le Kwilu. Hein? Elle a 4,2 heures et demie de travail manuel lourd par jour. 4,2 heures et demie. 2,4 heures de travail manuel modéré. Elle passe tout
professeur
son temps
Bouanganga.
À faire que ça, travailler.
Professeur Bouanganga, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour développer l'entrepreneuriat en RDC, particulièrement l'entrepreneuriat féminin?
On arrive à la question primordiale. Je ne pense pas être le seul à pouvoir discuter d'un tel sujet. Je préfère qu'on en discute avec tous les experts qui vont nous suivre. Peut-être qu'il y aura des réactions. Mm-hmm. Mais lorsque nous parlons de l'agriculture, vous allez entendre tout le monde dire que la productivité de notre agriculture est faible. Et donc, les solutions sont connues. Les solutions, on va vous dire, il faut améliorer la technologie, il faut former les agriculteurs, il faut développer les filières, il faut promouvoir l'entrepreneuriat. Ça, c'est des mots que nous entendons à longueur de journée. Mais comment faire? Comment faire pour développer l'agriculture de manière durable? Il faut mettre l'agriculteur au centre du modèle de développement. Il y a deux façons de le faire. Développer des chaînes de valeur, oui, mais comment développer des chaînes de valeur? Je vais vous dire deux manières simples de développer des chaînes de valeur. Soit que vous vous positionnez en leader et vous vous dites, nous, à partir de nos matières premières, nous allons former nos agriculteurs. Nos ingénieurs vont travailler pour monter des procédés et nous avons des utilisations possibles de nos matières premières. Et comme ça, nous créons des chaînes de valeur à valeur ajoutée jusqu'à ce que nous ayons l'intérêt que nous pouvons tirer de notre agriculture. Ça, c'est une façon de faire et qui peut coûter beaucoup d'argent et qui peut prendre beaucoup de temps. Qui peut prendre énormément de temps. Ça veut dire développer une filière d'un bout à l'autre, ça peut prendre du temps. La deuxième façon de faire, c'est de positionner les producteurs sur les chaînes de valeur. Positionner les producteurs sur les chaînes de valeur. Monsieur le journaliste, aujourd'hui, toutes les entreprises qui consomment les matières premières au monde savent que là où la matière première est de qualité et coûte cher, ils peuvent investir. Ils le savent aujourd'hui. Si nous produisons du manioc de meilleure qualité à un coût raisonnable, tout le producteur d'amidon, je dis raisonnable et compétitif, tout le producteur d'amidon vont venir développer leur chaîne de valeur à partir de nos matières premières. Voilà les deux façons. Soit on développe la filière d'un bout à l'autre, soit on travaille nos producteurs locaux pour qu'ils sachent exactement où s'insérer dans ces chaînes de valeur. Voilà.
Alors, un peu pour... D'accord. Prenons par exemple la culture du manioc. Quelles sont les différentes chaînes de valeur qu'on peut développer à partir du manioc?
Il y a beaucoup d'utilisations. Le manioc contient de l'amidon, et l'amidon, on l'utilise dans plusieurs domaines. On fait de la colle d'amidon. L'amidon, c'est quand même une source énergétique de meilleure qualité. L'amidon, ben on peut en faire du pain, on peut faire de la colle, on peut faire beaucoup de choses, avec le manioc. Mais toute la question, c'est de réfléchir justement sur les différentes utilisations alimentaires et non alimentaires de nos spéculations. Il y a manière de réfléchir sur ces spéculations, et je pense qu'avec vous, on avait tenu plusieurs émissions dans ce sens-là, et je parle très souvent de ce que j'appelle l'adéquation techno-fonctionnelle. Ça, c'est quelque chose par lequel il faut obligatoirement passer si on veut développer des chaînes de valeur durables et rentables. Donc, on va étudier spéculation par spéculation, utilisation de chaque spéculation, diversifier les utilisations de nos spéculations. C'est seulement de cette façon-là que nous pouvons en tirer beaucoup de profit. Parce que l'objectif final, monsieur le journaliste, c'est que nous voulons réduire les importations alimentaires. Et nous l'avons dit, mais après, dans nos villes, nos habitudes ont changé, nos habitudes alimentaires ont changé. Aujourd'hui, je peux multiplier le rendement de manioc. Mais si je ne multiplie pas les utilisations du manioc, les gens vont continuer à acheter des pâtes parce que c'est facile à cuisiner. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux produire beaucoup d'arachides. Bon, les gens vont continuer à manger les biscuits avec, je ne sais pas moi, de matières premières venant d'ailleurs. Je peux multiplier la production. Mais si je n'arrive pas à aller vers les attentes de mes consommateurs, surtout les consommateurs des villes, les consommateurs de villes qui ont totalement changé des modes de consommation, si on n'arrive pas à mettre le lien entre la matière première qu'il y a de chez nous et les utilisations de chez nous, ben on peut produire comme on veut, il y aura toujours des choses que nous allons importer.
D'accord.
Il y a des choses qu'on peut faire pour réduire totalement les importations alimentaires dans notre pays.
On va donner la parole à Alfred Wango qui nous appelle de Kisangani. Alfred, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question?
Oui, ma préoccupation, je voulais un peu commenter sur le sujet du jour concernant les terres agricoles qu'on a ici chez nous en RDC. Je pense que le problème n'est pas tellement la transformation de quoi que ce soit. C'est plutôt d'abord la conscientisation de la population concernant la vie. Parce que la plupart de nos populations d'aujourd'hui ne connaissent pas quoi faire dans l'agriculture. Par exemple, ils ne savent pas comment s'y prendre en agriculture. Tout cela, c'est premièrement la faute à notre gouvernement, parce qu'il ne s'adonne pas au secteur agricole. Mais il se pense à la matière première, aux minéraux, par exemple, mais il ne sait pas que tout vient du sol, par exemple. Parce que tout ce que nous vivons, nous mangeons, nous avons comme moyen, ça provient de l'agriculture. Hein, comme l'invité venait de le dire, avec les matières, par exemple, on peut transformer beaucoup de matières pour apporter l'innovation à la population. Parce que quand on transforme les manioc, par exemple, en farine, la population bénéficie. Mais on peut aussi l'utiliser autrement. Et ma question principale, j'aimerais un peu savoir si le gouvernement au moins consulte les scientifiques, nos scientifiques, parce qu'il y a beaucoup de travaux qui sont ok dans nos universités, mais qui ne sont pas appliqués en agriculture. Pourquoi? Parce qu'ils ne consultent même pas les scientifiques.
Bien, merci Alfred. Merci.
Oui,
merci Alfred Wango de Kisangani qui nous dit que les gens pensent que les bus n'est nécessairement dans les minerais. Il faut arriver d'abord à conscientiser la population. Et ça, c'est au gouvernement de le faire pour comprendre l'importance du secteur agricole afin qu'il y ait beaucoup plus d'investissements. Professeur okay. Jean-Claude Bouanganga.
Oui, encore une fois, je ne suis pas totalement d'accord. Vous savez, la surface qui est emblavée en République démocratique du Congo n'est pas petite. Elle n'est pas petite. Elle peut permettre de nourrir la RDC et de nourrir une partie de l'Afrique. Ce n'est pas un problème de superficie ou un problème de conscientisation. C'est un problème de notre modèle d'agriculture. C'est pas un problème des gens qui ne sont pas impliqués dans les activités, etc. Non, c'est un problème. Je venais de parler de la productivité de notre modèle. Notre modèle, je vous ai donné quelques chiffres des rendements de nos champs ici dans le Kwilu.
Professeur Bouanganga, si par exemple nous avons, je donne l'exemple, il y a une femme qui a des moyens, qui a de l'argent et qui voudrait investir aujourd'hui dans le domaine agricole, comment va-t-elle s'y prendre?
Ça c'est, au fait, c'est une question bizarre. C'est une question bizarre parce que elle va venir investir dans un modèle, j'appelle un modèle boiteux. Bon, il y a des gens qui ont réussi quelques petits modèles d'agriculture. Je ne vais pas citer des noms parce que ce n'est pas l'occasion de le dire. Moi, je connais des fermes où je suis passé, où vous voyez clairement, c'est dessiné une rentabilité. Mais ça doit être de fermes qui sont tenues par des gens qui ont assez de moyens pour avoir un modèle intégré où on a de l'agriculture, de l'élevage, on a une petite unité de production d'aliments pour bétail, on a un personnel qui suit, etc. Si on est dans ce type de modèle-là, ça peut aller, parce que c'est un modèle qui demande énormément d'argent que le petit producteur congolais de base ne peut pas implémenter. Ça c'est une chose. Si vous me dites, je veux investir dans l'agriculture, la première question que je vais vous demander, vous avez combien d'argent? Vous ciblez quel marché? Est-ce que vous voulez investir pour vendre le manioc dans le marché de Kinshasa ou vous voulez investir pour vendre le manioc à l'Abraliment, à l'Abracongo, ou c'est pas moi, ceux qui fabriquent du pain, etc. Donc, en fonction de l'objectif, il y a des approches différentes. Il y a des fermes qui sont destinées au supermarché. Il y a des fermes qui ont des productions destinées au supermarché. Il y a des gens qui produisent pour la grande consommation ou des gens qui produisent pour les industries. Et tout dépend de l'objectif du fermier. Mais si la dame veut investir dans l'agriculture, dans le modèle actuel, je peux vous jurer que dans 5 ans, elle va regretter son argent.
Maintenant, quel est le bon modèle? Où trouver ce bon modèle agricole qu'on peut suivre?
Je vous ai fait le tracé dans les deux sens. Dans le premier sens, où je dis que c'est le gouvernement qui doit travailler sur le modèle d'agriculture à mettre en place. Parce que n'oubliez pas que sans l'agriculture, le gouvernement de la RDC ne fera absolument rien. L'autre fois, je disais aux gens que l'agriculture n'est pas rentable, et eux, ils avaient entendu le professeur Bonganga dire qu'on ne peut pas se développer en utilisant l'agriculture. Non. Je dis, l'agriculture n'est pas rentable. Si nous investissons dans le modèle de notre agriculture actuelle, nous n'allons pas réduire les importations et donc nous ne saurons pas diversifier notre économie. Comment transformer notre agriculture? Deux choses, c'est ce que je viens de dire. Soit que l'on va travailler les agriculteurs en le format. Il y avait des services pour ça, monsieur le journaliste. J'ai même entendu parler qu'il y a un nouveau bâtiment du Service national de vulgarisation. Donc, il y a des gens qui peuvent rentrer au niveau de producteurs de base pour le former. On les forme pour qu'ils deviennent compétitifs. S'ils sont compétitifs, on va les accompagner pour que leur production s'insère dans les chaînes de valeur, en facilitant la négociation avec les industriels qui sont partout dans le monde et qui n'attendent que de la matière première de meilleure qualité à un moindre prix. Deuxième chose, le gouvernement peut aussi décider de développer son propre modèle, c'est-à-dire nous n'allons pas produire le manioc pour faire de l'amidon, ah mais notre chikwang est de bonne qualité, nous pouvons vendre la chikwang partout dans le monde, nous développons des outils pour convertir notre manioc en chikwang si nous pensons que la chikwang peut nous donner la valeur ajoutée maximale. Donc réfléchir sur les utilisations, c'est un travail qui se fait entre techniciens, économistes, juristes, etc., les législateurs, etc. Et donc, on doit se mettre ensemble, réfléchir sur les différentes utilisations de nos matières premières et mettre le moyen pour développer les chaînes de valeur. J'ai vu qu'il y a un projet du ministère de l'Agriculture sur le développement des chaînes de valeur. Je suis tout à fait d'accord avec ce projet-là. Parce que ce projet, s'il est bien mené, on a ciblé 6 provinces, mais je ne voudrais pas que ce soit du saupoudrage, encore une fois. On peut prendre une province, une spéculation, au lieu de prendre 6 provinces, 3 spéculations. On peut prendre une spéculation par province et on développe la chaîne des valeurs du début à la fin. C'est le seul moyen, monsieur le journaliste, le seul moyen. Si vous allez en Europe, on ne cultive pas pour n'importe quoi. Vous n'avez pas la capacité de transformer le lait, pourquoi vous allez produire? Vous n'avez pas la possibilité de transformer le malt d'orge, pourquoi vous allez produire? Vous n'avez pas un marché pour le malt d'orge, pourquoi vous allez augmenter la production? Quelles sont les différentes utilisations?
Oui. Professeur, on va accueillir un instant.
Vous allez voir, monsieur. D'accord. Vous allez voir. Nous avons des déficits.
Professeur Jean-Claude Bouanganga, un instant.
Et nous avons des pertes post-récolte.
D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, le temps d'accueillir John Kabemba depuis Kananga. John, bonjour.
Bonjour, merci bien, monsieur. Je dis mon formateur que je l'entends. C'est une émission que j'aime vraiment. Premièrement, je voudrais dire ceci. Premièrement, il a fallu que les gouvernements congolais puissent intéresser concernant le partenariat avec le pays et concernant tous les gouvernements. À titre illustratif, le président a dit j'aime que mon peuple soit bien en bonne santé et en rythme avec concernant tout le pays qui est la République démocratique en plus il a fallu que notre invité puisse me répondre à cette question. Bien, premièrement il a fallu que
John rapidement, quelle est votre question par rapport au sujet?
Je n'ai pas terminé, s'il vous plaît. Il a fallu que le gouvernement puisse aussi, concernant le partenariat de notre pays, et en plus, puisse aussi donner quelque chose concernant le peuple de la République démocratique du Congo. Je vous remercie.
Bien. Merci John, depuis Kananga. Nous parlons de la promotion de l'entrepreneuriat agricole en République démocratique du Congo avec professeur Jean-Claude Bouanganga, expert en technologie des transformations des aliments. Des questions et préoccupations, n'attendez pas les dernières minutes, composez le 081 890 63 94, écrivez-nous également à service@radiookapi.net.
Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Comment promouvoir l'entrepreneuriat agricole en République démocratique du Congo? Professeur Bouanganga, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut développer des modèles d'agriculture et qui aient, par exemple, des spécificités par rapport à chaque province. On sait que telle province produit telle culture pour tel objectif. Pouvez-vous aller un peu plus en profondeur par rapport à cela?
Donc, moi, ce que je veux, en fait, c'est pas que, lorsque je dis ça, ça ne veut pas dire que nos provinces vont rester comme ça, dans cette spéculation, jusqu'à la fin du monde. Non. Moi, ce que je dis, c'est que nous devons développer des modèles. Quand vous voulez développer un modèle, vous mettez de l'argent. Vous mettez de l'argent, vous développez le modèle. Une fois que le modèle est développé, ça veut dire que vous avez déverrouillé le système, vous connaissez toutes les contraintes, etc. Vous pouvez l'implémenter ailleurs. Ce que je ne veux pas, c'est que l'on se dise, bon, au même moment, nous allons faire des études pour développer des filières dans les provinces et nous allons prendre toutes les filières qui existent. Non, on ne travaille jamais comme ça, parce que si vous travaillez de cette façon, vous n'aurez pas de bons résultats. À la radio Okapi, un jour, j'avais dit ceci, exactement, que on est parti du pain d'orge à la bière d'orge. C'est ça la question. On ne peut pas développer une spéculation sans l'avoir étudiée au préalable. Pourquoi on a changé d'utilisation? C'est parce qu'on a vu qu'avec les utilisations actuelles, on n'arrive pas à capter le maximum de valeur ajoutée sur la spéculation en question. Alors, ces études doivent se faire pour que l'utilisation dure et crée suffisamment de valeur. Donc, arrêtons de croire que nous sommes capables de faire tout au même moment. Non. Mettons notre agriculteur au centre de notre modèle. Notre agriculteur, cette femme, hein, encore salutations à toutes les mamans de la RDC et du monde, la femme qui est au centre de nos préoccupations maintenant, cette femme qui nous nourrit, tout ce que nous mangeons vient d'elle. Mais lorsqu'il s'agit d'accéder au crédit, on la met à l'écart. Lorsqu'il faut qu'elle accède aux services, on la met à l'écart. Lorsqu'il faut qu'elle accède au marché, c'est même son mari qui va vendre et qui vient lui raconter tout un tas de choses. Lorsqu'elle doit avoir accès à l'information, c'est pas elle. Et chaque fois qu'il s'agit de l'agriculture contractuelle, on la met de côté. Et donc ce sont d'autres personnes qui réfléchissent à sa place, qui ne connaissent pas la douleur du travail qu'elle fait. Donc, nous, en tant que scientifiques, nous devons amener notre touche, et c'est ce que nous faisons. Il ne faut pas croire que nous ne faisons rien, ces journalistes. Nous travaillons en permanence sur la migration de nos biotechnologies. On travaille.
Professeur Jean-Claude Bouanganga, on peut retenir que pour promouvoir l'agriculture, vous avez dit que le gouvernement doit commencer par choisir un modèle d'agriculture, et puis
nous devons réfléchir
sur le modèle, et puis il y a un projet de développement des chaînes de valeur, voilà, les différentes spéculations. Alors ce projet de développement des chaînes de valeur, comment se présente-t-il?
Bon, il y a un projet qui est financé, j'espère bien, par la BAD, sous la coordination du ministère de l'agriculture, et qui est, en tout cas, j'ai aimé les objectifs du projet parce que ça va dans le sens d'améliorer la productivité de notre agriculture avec quelques spéculations. C'est comme ça que je profite de l'occasion pour dire que pour ne pas que l'on dépense autant, on peut aller une spéculation par province. Pour ne pas faire du saupoudrage, on fait un travail de fond. Une fois que le modèle est à maturité, on peut essayer de l'implémenter ailleurs. Donc, déverrouillage. Et puis, ils ont mis un accent particulier sur l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Ça, j'ai vraiment aimé, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, parce que ce sont ces deux classes-là qui sont au centre de l'activité agricole en République démocratique du Congo. Je pense que c'est un projet qui mérite qu'on le suive en permanence pour que les résultats puissent permettre à notre agriculture d'être déverrouillée correctement.
Donc, par là, on peut comprendre que ceux qui veulent investir dans les domaines agricoles, parce qu'on a dit on a 80 millions de terres arables, donc il y a, on peut se dire qu'il y a beaucoup d'opportunités dans les secteurs agricoles. Alors aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a des fonds et qui voudrait se lancer, donc doit encore réfléchir, parce que il y a pas encore un modèle qui peut lui permettre de bien évoluer.
Oui, donc le modèle qu'il faut mettre en place dans l'agriculture, c'est un modèle qui doit avoir des avantages pour l'État. Je vous explique en deux mots. Donc l'État a intérêt à ce que son agriculture soit compétitive. C'est comme ça qu'en Europe, vous avez la politique agricole commune. Pourquoi ? Parce que si vous mettez votre agriculture dans un univers où la concurrence est très élevée, vos agriculteurs seront pauvres et vont se décourager. C'est comme ça que l'État doit s'impliquer. Pourquoi l'État s'implique ? L'État s'implique pour que ces agriculteurs gagnent de l'argent et qu'ils produisent davantage, pour que l'on réduise les importations alimentaires, que le gouvernement soit capable de diversifier son économie. C'est gagnant-gagnant. L'agriculteur gagne parce que l'État y met des subventions et l'État gagne parce que il ne va plus importer et donc du coup il va garder des devises pour pouvoir diversifier son économie. Donc c'est compliqué. Ça veut dire que la rentabilité d'une exploitation, il y a deux façons de la voir. Il y a des gens qui voient la rentabilité d'une exploitation individuelle, c'est-à-dire moi, Jean-Claude Bouanganga, j'ai 500 têtes de gros bétail et donc je me dis riche, même si je suis dans un modèle où l'élevage n'est pas rentable. Ce n'est pas comme ça qu'on doit évaluer la rentabilité de l'agriculture. Ce qu'il faut faire, c'est de voir le modèle global qui puisse aider véritablement le pays. Je serai convaincu que notre modèle d'agriculture a atteint sa maturité lorsque nos importations vont partir de 2 milliards de dollars à 1 milliard de dollars l'année prochaine, d'un milliard à 500 000 l'année d'après, etc. Tant que nous continuerons à importer des Piodi, des Makoso et tout ce que vous voulez, venez me raconter tout ce que vous voulez sur l'agriculture, je vous dirai que ça ne marche pas.
Bien, on va accueillir Safari depuis Gabarrière. Bonjour Safari.
Bonjour à vous, bonjour à monsieur l'invité.
Quelle est votre question?
D'accord, je vais noter une chose. En effet, en RDC, en fait, tout négliger à tel point que moi je ne sais pas si la RDC sera classée dans le monde. Même les secteurs comme agriculture, c'est un secteur qui a fait parler les noms d'autres pays dans le monde. Donc il se sont fait classer uniquement à partir de l'agriculture. Donc cela me pousse à poser une petite question à notre invité. Présentement, nous, la RDC, dans le monde, on a quelle classe? Donc on est classé à quel rang dans ce secteur de l'agriculture. Voilà ma question et bonne journée.
Merci. Nous occupons quelle position dans le classement mondial par rapport à l'agriculture, professeur Jean-Claude?
Alors, on n'a pas de place. Quelle place vous voulez qu'on ait? Quelle place vous voulez qu'on ait? Est-ce que nous faisons de l'agriculture déjà, pour commencer? Nous ne faisons pas de l'agriculture, monsieur le journaliste. Nous nous débrouillons pour manger. Nous nous débrouillons pour manger.
Voilà.
Nous ne faisons pas de l'agriculture. Nous nous débrouillons pour manger. Nous achetons même ce que nous pouvons produire. Hein? Nous achetons même ce que nous sommes capables de produire. Lorsqu'un État est dans cette situation, c'est un État qui est appelé à disparaître. Nous n'existons pas. Nous n'existons pas.
Professeur Jean-Claude, et pour avoir... Professeur Jean-Claude Bouanganga.
Si on vous nourrit, monsieur Jean-Louis.
Professeur Bouanganga, alors pour que la RDC arrive à développer son modèle agricole, qu'est-ce qu'il faut?
Il faut réunir des intelligences. Et nous sommes en train de travailler de manière un peu éparse. Et c'est dans tout le domaine. Nous sommes en train de travailler. Et le gouvernement congolais doit mettre en tête que les intelligences de la RDC, il ne faut pas aller les rechercher aux États-Unis. C'est des gens qui connaissent pas les réalités de la RDC. Vous allez prendre un expert des États-Unis d'Amérique, il va venir ici, il va commencer à vous raconter des choses sur l'agriculture, des choses qu'il ne maîtrise même pas. Tout le monde va parler de la femme rurale aujourd'hui, faites passer votre micro. Mais on décrit quelle femme? Ce ne sont pas ces femmes qui participent à des conférences aujourd'hui. Hein. Non, il faut qu'on se mette autour d'une table, que l'on réfléchisse sur l'avenir de notre agriculture. Et c'est pas le pauvre Bouanga qui va le faire. C'est pas le pauvre Bouanga qui va le faire. Le ministère de l'Agriculture a des talents. Qu'on se mette ensemble, qu'on nous invite, qu'on discute, qu'on voit ensemble qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, j'ai une expérience depuis 2015. Je suis ici dans le Kwilu. Je vous dis que c'est des gens qui travaillent beaucoup, mais qui souffrent au même moment. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez à Kinshasa. Hein, promouvoir ceci, faire ceci, ça, c'est des mots creux. Ça ne se ressent pas ici. Ça ne se ressent pas. Et les gens, ils en ont marre.
Alors, hein, professeur...
Nous-mêmes, au niveau national, nous ne le sentons pas, monsieur le journaliste.
Professeur Bouanganga.
Professeur. Des gens mangent de dindons, du poulet, des choses comme ça, qui viennent d'ailleurs. Et nous parlons encore d'agriculture aujourd'hui, je suis fatigué.
Professeur Bouanganga, on a appris qu'il se tient actuellement là à Bandundouville une conférence agricole. Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Oui, on m'a dit qu'il y a une foire sur l'entrepreneuriat des femmes. Je pense que je vais participer demain. Mais encore une fois, ça c'est à Bandundou. C'est bien, mais c'est bien dommage. C'est bien dommage. On devrait reculer, on devrait aller en Saint-Pierre, à l'intérieur là-bas, aller voir cette femme. Hein, elle n'a pas d'épargne pour venir, la pauvre. Elle ne pourra pas venir. Elle n'a même pas de moyens de transport pour arriver ici. Écouter les brillantes présentations du docteur Ngavan que je connais, ou du professeur Bonanga, ou de je ne sais pas moi qui. Cette femme-là, elle n'existe que dans nos têtes, quoi. Elle n'est pas là, on ne sait pas mettre le doigt sur elle. Nous n'allons pas lui parler aujourd'hui, c'est dommage. C'est dommage.
Bien. Nous avons, je veux lire les réactions des auditeurs. Tamboué Kassongo, depuis Béni, nous dit la RDC a plusieurs hectares non encore exploités suite à l'immensité de notre pays. La jeunesse congolaise est découragée des affaires des dessertes agricoles. Par exemple, la ville de Béni, plus de 80% de la population de cette contrée vie de l'agriculture et là où il exerce les activités champêtres, c'est là où il y a l'insécurité grandissante et ça ne leur permet pas d'accéder aux champs. Pour encourager les citoyens congolais et plus particulièrement nous qui sommes à Béni, de nous intéresser à la chaîne des valeurs agricoles, il faut que les autorités puissent fournir les efforts pour en finir d'abord avec l'insécurité, réhabiliter les routes des dessertes agricoles et que les ONG œuvrant dans les secteurs puissent fournir aux agriculteurs les produits et les matériaux pour leur permettre de bien faire le travail. Aujourd'hui, l'Ouganda est proclamé parmi les pays producteurs du cacao alors que l'Ouganda ne cultive pas le cacao. Ce cacao provient plutôt de Béni. Professeur, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la réaction des tambours de Béni?
Cette histoire de négociations, etc., c'est des choses très complexes, hein, très complexes. Et d'ailleurs, tout le monde le sait, monsieur le journaliste. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde de la négociation, il y a très peu d'entreprises, seulement très peu, hein, qui négocient la grosse part de production mondiale. Donc, c'est comme on dit, 80% des crimes, commis par 20% de criminels, quoi. Donc, lorsque vous avez, au niveau de votre pays, une politique qui permet que les gens viennent négocier facilement, écoutez, ils vont venir négocier. Et il n'y a pas de cadeau à faire. Le Rwanda n'a pas à nous faire de cadeau. Le Rwanda a besoin de se positionner au niveau international. Et lorsque le Rwanda sait qu'il peut créer des conditions, des négociations, pour que même des agriculteurs congolais aillent vendre leur café là-bas, ben ils sont gagnants. C'est un jeu d'intérêt. C'est un jeu d'intérêt. Il n'y a pas un État qui va faire des cadeaux à un autre. Ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, parfois, je me dis, est-ce que nous réfléchissons, dans le sens de vraiment être indépendant un jour?
Professeur Bouanganga, alors ici il y a des jeunes, aujourd'hui on encourage beaucoup plus les jeunes à se lancer dans l'agro-business. Comment aider ces jeunes-là qui ont de l'énergie et qui voudraient, parce que le secteur agricole était beaucoup plus négligé par la jeunesse, mais aujourd'hui certains commencent à prendre conscience, comment les encourager à évoluer dans le secteur?
Le gouvernement doit mettre de l'argent, doit disponibiliser de l'argent. Le gouvernement doit accompagner ces gens. Quand je parle d'accompagnement, Et encore une fois, c'est toujours ça, la même chose qui revient. Quand tu dis accompagnement, les gens pensent que tu viens, tu donnes de semences et puis tu disparais. Non. Les agriculteurs en Europe sont accompagnés en permanence. En permanence. L'État ne peut pas perdre l'attention qu'il a sur les agriculteurs. Lorsque vous perdez le contrôle de vos agriculteurs, vous perdez le contrôle de votre pays. Vous perdez le contrôle d'argent dans votre pays. Je vous ai dit tout à l'heure, la moitié de notre budget disparaît. Nous produisons de l'argent, l'argent disparaît. Pourquoi ? Parce que nos enfants, quand ils ont l'argent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont acheter des bonbons, ils vont acheter ceci, ils vont acheter des méthodies, ils vont... Et chaque fois que vous achetez comme ça, ces commerçants doivent se ravitailler encore. Et ils vont sortir des masses d'argent du pays. Et le gouvernement, tant que le gouvernement ne va pas fermer ça, ça va continuer comme ça. Nous pouvons tenir des milliards d'émissions, ça ne marchera pas. Accompagner les jeunes, très bien, pour un objectif global. Stabiliser la production au niveau du pays. Créer de l'argent. Les agriculteurs doivent être riches, doivent avoir de l'argent. Mettre les agriculteurs au centre de leur activité. Et comme c'est une activité qui n'est pas rentable, le gouvernement subventionne. On crée des banques pour des crédits, pour accompagner les agriculteurs. Aujourd'hui, si vous allez demander un crédit, personne ne va vous l'octroyer. Parce qu'on sait que le modèle, il est boiteux. On peut, aujourd'hui, mais vous avez suivi, Péjab. Ben, j'ai envie de demander qu'est-ce que ces jeunes sont devenus. Il y avait le projet pour l'emploi des jeunes en agro-business. Et ça a été lancé. Bon, je ne sais pas. Peut-être que je n'ai pas fait d'évaluation de ce projet, mais je pense que ça devrait se sentir. On devrait au moins nous dire, parmi les indicateurs, que le niveau d'importation va baisser de moitié.
Donc peut-être le grand problème, c'est là.
Un programme.
Oui.
Hein, pardon.
Si par exemple il y a
un indicateur clair, il y a un indicateur clair qui montrera que notre agriculture est en train d'être transformée. Ce sont les importations. Il ne faut pas aller loin. Vous pouvez mettre autant d'argent et en blaver autant d'hectares. Si nous continuons à importer ce que nous importons maintenant, la moitié de notre budget ira à l'étranger. Et le pays ne peut pas se développer comme ça.
Par exemple, ici, il y a des jeunes qui veulent s'associer, commencer à transformer, à fabriquer des jus à partir de nos fruits, à arriver à se lancer dans un tel secteur. Pensez-vous que ça peut être rentable ou pas?
Oui, c'est rentable. Si les jeunes se lancent dans ces domaines, c'est rentable, mais il faut bien étudier le marché. Il faut bien étudier le marché, sinon vous produirez des jus que les gens ne vont pas consommer. Vous voyez le problème? C'est ça le problème, c'est que c'est pas parce que je me suis positionné en agriculteur que les gens vont forcément consommer ce que je vais produire. Non. Vous pouvez, et j'ai suivi, je pense que c'était en Zambie ou en Tanzanie, je pense que c'était en Zambie, des gens qui se plaignaient du fait que le poulet qui était produit par des Chinois coûtait moins cher que le poulet local. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Eux, ils veulent vendre. Ils viennent chez nous à la recherche des marchés. Et personne ne va empêcher qu'un producteur de jus chinois vienne vendre en République démocratique du Congo un produit de meilleure qualité que le produit congolais et qui coûte moins cher. Parce que nous-mêmes, nous ne travaillons pas sur la sécurité de nos produits, sur le côté santé, c'est-à-dire les protéines qu'il faut avoir dans le produit, etc., le côté organoleptique, le service, tout ça, il faut réfléchir sur ça. Il faut réfléchir. Je veux manger une chikwang, mais je suis embêté d'enlever des feuilles. Je vais manger dans un avion. Je vais manger une chikwang dans un avion. Écoutez, où est-ce que je vais jeter les feuilles? C'est gênant. Il faut réfléchir sur le service. Et tout ça, je vous jure, tout ça est faisable si nous le faisons. Bien sûr, même avec ce projet de chaîne de valeur. Spéculation par spéculation. C'est beaucoup d'argent. C'est plusieurs millions de dollars qu'on met dans ce type de projet. Plusieurs millions, alors ne saupoudrez pas, s'il vous plaît. Ne saupoudrez pas.
Donc, tout, la balle, si je comprends bien, la balle est au niveau. Professeur Bouanganga.
Maintenant, je pense qu'il m'écoute. Prenez les 32 milliards, développez une seule chaîne de valeur efficace. Pourquoi 6 provinces? Prenez une province. Prenez une province parce que le résultat est national. Hein, géopolitique, ça se fait pas dans ce genre de choses. Pas de géopolitique dans ça. C'est une question de sécurité nationale. C'est une question de sécurité nationale.
Professeur Bouangang, actuellement, par exemple, quelle est la province de la RDC qui produit beaucoup plus en termes de production agricole?
J'ai dit, moi, j'aime pas parler de cette agriculture parce que ces chiffres, moi, j'aime pas les lire. Et nous avons avec vous ici parlé du service national. Où est-ce qu'on allait? On nous a fait croire que c'était un cadre de réflexion stratégique pour la transformation de l'agriculture. Au lieu de prendre de l'argent pour aller développer des chaînes de valeur, je ne sais pas moi où, mettez ça au service national, prenez des experts, travaillez dans le secret. On travaille dans le secret. Ces choses-là, les choses, ici, il y a des choses que je ne peux pas dire, monsieur le journaliste. Parce que pour faire ça, c'est une stratégie profonde. C'est une stratégie profonde. On ne peut pas discuter de toutes ces stratégies à la radio ou à la télévision. C'est faux. Personne ne le fait comme ça. Dans
Professeur Bouangang, alors récapitulons. Pour promouvoir l'entrepreneuriat agricole en RDC, qu'est-ce qu'on retient? La première chose, il faut d'abord que l'État congolais développe un modèle d'agriculture.
Ouais, qui transformera le modèle actuel, qui n'est pas un modèle du tout, hein.
Voilà, bah jusque-là, on n'a aucun modèle. Alors après cette étape-là, qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut Donc, lorsqu'on aura transformé le modèle, on aura créé le modèle, on peut l'implémenter dans des zones ciblées. Ça va? Donc, on va implémenter dans différentes zones pour élargir le modèle, pour que les résultats puissent être vus au niveau national. Nous pouvons développer un modèle maïs dans le Bandundu, mais l'implémenter dans le Kasaï et puis ailleurs. C'est pas au même moment que nous allons développer tout ça. On développe et puis on implémente ailleurs. On développe et l'idée, quand on a développé Bukangalonzo, c'était quoi? Ils voulaient faire quoi? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? On développe Bukangalonzo et après on implémente ailleurs. Ça se fait comme ça. Mais il faut une transformation d'abord, une transformation profonde de notre modèle. Une transformation.
Et en plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il y ait aussi les crédits agricoles, des structures qui octroient des crédits.
Il faut des banques.
Des banques.
Les banques mettent les outils nécessaires parce que c'est une activité très risquée. C'est une activité très risquée. Il faut un accompagnement. Il faut un accompagnement de la banque. C'est une activité, je vous dis, très très risquée. Hein? On ne peut pas être sûr d'avoir tout le temps le rendement que l'on attend. Surtout si on fait de l'agriculture biologique. C'est très risqué. Et donc, le gouvernement doit toujours être là, doit accompagner, doit mettre de l'argent. Avec, comme je dis toujours, avec cet indicateur-là, l'État verra les importations baisser. Et c'est à ce moment-là qu'on se dira, eh bien, notre stratégie est en train de produire ses fruits.
Bien.
Aujourd'hui, monsieur le journaliste, je peux dire, je vais encourager l'emploi des jeunes en agro-business. Et dans quel modèle? Dans quel modèle?
Bien. Merci, professeur Jean-Claude Bouangang. Je rappelle que vous êtes expert en technologie de transformation des aliments. Alors, Yves-Daniel Ngavan, vous êtes en ligne? Yves-Daniel?
Oui, je fais l'écoute.
Bonjour Yves-Daniel Ngavan, nous parlons de la promotion de l'entrepreneuriat agricole. Vous êtes à Bandenouville, vous participez à une foire agricole. Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Oui, déjà je suis d'ailleurs en pleine exposition avec les mamans qui sont autour de moi ici. Les différentes mamans qui sont venues de tous les quartiers de la ville de Bande de périphérie, qui sont de voir exposer les différents produits. Je vois des transformations de jus, je vois de bananes, je vois du foufou, je vois de produits de nettoyage de maison, je vois énormément de produits autour de moi, parce qu'on va devoir commencer, il y a le ministre du Genre qui est en route et le gouverneur qui vient également, parce que on va clôturer le mois de la femme ici au centre Ntomboa à Bandeville, autour de cette foire. Donc voilà un peu l'ambiance qu'il y a ici. Il faut dire que pour l'explication, c'est que cette foire s'inscrit dans la durée pour donner la possibilité à la femme rurale qui est longtemps oubliée. Comme l'a dit le professeur Bouanganga, que je salue, que cette femme qui, généralement, quand on parle de la femme rurale, elle-même n'est pas là. On a voulu vraiment se rapprocher de cette femme pour qu'elle se sente aussi qu'elle existe, et qu'elle est considérée, et qu'elle puisse prendre sa destinée en main, de comprendre que c'est elle qui nourrit les gens qui sont en ville. Même avec des moyens modestes, elles ont leur place dans la société, mais aussi valoriser les quelques produits qu'ils sont en train de faire avec le moyen alimentaire. Dire que c'est toujours possible que demain, après-demain, ils fassent partie de ces échantillons pour devenir de grands entrepreneurs. Donc voilà un peu l'esprit de l'activité d'aujourd'hui.
Bien. Et combien de femmes participent à cette foire?
Là, je ne sais pas dénombrer jusque-là, mais nous attendons autour de 200-300 femmes, parce que je vois déjà la salle est presque pleine. Il y a d'autres femmes qui sont dehors, dans le stand. Donc, l'idéal pour nous, c'est d'arriver à sensibiliser un échantillon quand même un peu représentatif. Mais on ne saura pas à faire venir toutes ces femmes, mais au moins pour nous, c'est l'occasion de dire à ces femmes que quand on parle de mois de la femme, ce n'est pas seulement des femmes qui sont à Kinshasa, qui se battent pour des postes politiques ou les entreprises publiques ou pour le droit de la femme. Mais quand on parle de mois de la femme, il faut aussi penser à cette femme rurale et qui fait beaucoup dans l'ombre, mais qui est complètement oubliée. Donc il faudra que désormais, que nous puissions mettre cette femme en valeur, qu'elle soit au centre de l'attention en ce qui concerne l'entrepreneuriat et surtout l'entrepreneuriat agricole, parce que toutes ces femmes, généralement, ça donne directement comme emploi, c'est-à-dire à la terre, qui font de l'agriculture avec tout ce qu'il y a comme dérivé. Donc nous voudrions vraiment que cette femme soit honorée, que cette femme soit conscientisée, que cette femme soit formée, que cette femme soit encadrée pour qu'elle puisse encore rendre service à sa communauté, mais aussi pour son autonomisation, mais aussi développer à sa communauté.
Bien, Yves-Daniel Ngavan, expert coach en entrepreneuriat, merci et à la prochaine.
Je vous remercie, monsieur Jody.
Donnez-moi ça jusqu'au matin, donnez-moi ça jusqu'au matin,
jusqu'au matin, bébé.
Surtout y'a la voix des tabous, allez montre-moi tes tatous,
tout est tatou caché près de moi, yeah, près de moi, bébé, toi, na la le li le 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 le, li le 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 le, li le 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 le.
Jaloux,
plein d'ennemis, plein d'amour, jaloux.